A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
NoWatch.fm.
Incredible web show. Cette émission vous est proposée avec la participation de Squarespace et du fanshop NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on vous parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en juillet 2012 et c'est l'épisode numéro 91. Bonjour à tous, chers amis de la technologie, et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast qui analyse et explique les nouvelles de l'industrie tech tellement bien que même votre grand-mère, elle pourrait l'écouter. Bon, peut-être pas votre grand-mère, mais en tout cas, vous, même si vous n'êtes pas un immense expert, puisque nous suivons, nous écoutons, nous épluchons toutes les news et nous vous en servons la substantifique moelle fraîche à déguster toutes les 2 semaines dans les oreilles. Oui, c'est pas forcément hyper ragoûtant, mais pour sauver cette émission, j'ai 2 animateurs d'un podcast absolument extraordinaire qui font chanter la langue française comme peu d'autres francophones le font, mes camarades Benoît et Mike de Niptech. Comment allez-vous, messieurs ?
Salut, salut, tout bien, en bonne forme, prêt pour un bon rendez-vous tech.
Très bien.
Oui. Oui, non, tout va bien. Merci de nous réinviter. Hein. C'est la 2e fois que tu nous invites. C'est vrai qu'on fait chanter la langue française avec notre bel accent suisse. Alors, en tout cas, très content et content de voir que tu as des nouveaux annonceurs comme Squarespace, qui est un gros annonceur bien connu que j'entends souvent sur les gros podcasts américains. Donc, ouais. Bravo.
Bah merci, on espère que ça va donner quelque chose, on vous en parlera dans quelques minutes quand on fera la pause sponsor. Mais entre-temps quand même un petit mot effectivement sur les 2 camarades suisso-irlandais. T'es parti d'Irlande ou pas encore, Benoît ?
Alors non, je vais rentrer en Suisse mi-août, donc j'ai encore 4 semaines en Irlande, ouais, je vais en profiter.
Et donc, depuis la dernière fois que vous êtes venu dans l'émission, qui avait été un épisode assez apprécié des auditeurs, je dois le dire, il s'est passé des choses quand même entre NoWatch et Niptech. Il y a eu du fricotage, puisque Niptech fait maintenant partie de la grande famille NoWatch.
Oui, ça s'est bien passé. D'ailleurs, on a eu beaucoup de monde qui est venu de NoWatch. C'est vrai. Ça nous a fait plaisir. On a eu des bons retours. Je crois que les 2 communautés se sont bien mélangées, bien mariées. Donc, ça a fricoté à tous les niveaux, comme tu as dit. Ouais, c'est vraiment bien.
Magnifique. Donc effectivement, si vous connaissez pas Niptech, c'est peut-être un podcast à essayer d'aller découvrir. C'est un podcast sur l'industrie tech, mais plus côté start-up et innovation. Donc, si vous êtes dans ce monde-là, ça pourrait vous intéresser. On vous en reparlera là aussi à la fin de l'épisode. Mais entre-temps, on a, un programme d'été pour cet épisode. Il n'y a pas d'immenses news incroyables, mais quelques petites news intéressantes. On va vous parler de Microsoft et de ses méthodes de management un petit peu discutables, de la prochaine version d'Office qui vient d'être annoncée il y a quelques minutes à peine. On enregistre cet épisode le lundi, donc on est juste au moment de l'annonce de Microsoft Office 15 ou 16, je sais plus, l'un des deux. On a plein d'autres news sur Dig, notamment pour les vieux de la vieille du monde du podcast. Dig, ça vous dira quelque chose. Mais on commence par une nouvelle qui va faire sauter de joie ceux d'entre vous qui se sont battus contre le traité ACTA, dont on a beaucoup parlé dans cette émission et bien sûr partout ailleurs. ACTA est à peu près officiellement mort, puisque le Parlement européen a voté contre le traité de manière tout à fait claire. Il y a eu 478 votes contre 39, Donc le traité ACTA ne sera pas mis en vigueur, et puisqu'il ne sera pas mis en vigueur en Europe, bon, son essence est complètement drainée, et le traité en lui-même est, on peut dire qu'il est mort. C'est une bonne nouvelle ?
Écoute, une petite chose pour commencer, les 39, ils viennent d'où ? Ils viennent pas mal de France, non, si je me trompe pas.
Alors ça, c'était une note intéressante à faire remarquer, effectivement. Sur les 39, il y a, je crois, la moitié, donc c'est les députés européens, hein, bien sûr, donc ça représente toutes les nationalités du continent. La moitié de ces députés qui ont voté pour le traité viennent de notre beau pays de France. Effectivement. Donc, bon, on est content d'avoir un rejet du traité ACTA. On n'est peut-être pas hyper fier de voir que une majorité de ces, enfin, la moitié de ceux qui sont pour viennent de France. Et l'autre moitié, c'est évidemment de différents pays d'Europe.
Ce qui est assez drôle, c'est de remarquer l'image du lien que tu as posté. Et cette image, elle montre un peu où ils se situent les différents partis politiques, plutôt à droite ou plutôt à gauche. Et on voit que ceux qui étaient pour avaient, ou qui se sont abstenus étaient plutôt à droite de l'échiquier politique.
Bien sûr.
Ce qui prouve que ils comprennent pas toujours tout. Mais ouais, voilà. Moi, en Suisse, ça nous touche un peu peu ACTA, puisque finalement on est un peu quand même protégé de ce côté-là, hein, avec nos oui. belles banques. Et, donc on est un peu plus protégé que vous. C'est vrai que ce que moi je trouve pas mal, c'est le fait que vraiment les hommes politiques européens arrivent à comprendre quelque chose à la technologie, et ça montre que voilà, ils arrivent quand même à prendre des bonnes décisions de temps en temps.
C'est vrai qu'il y avait eu une telle levée de bouclier. On a vu un enthousiasme même des hommes politiques. Enfin, il y a une image là encore des parlementaires qui se lèvent avec des signes qui disent "Hello Democracy, Goodbye ACTA". C'est quand même bon. Ils sont convaincus par le truc. Hein, pardon, Benoît, je t'ai interrompu.
Non, tu m'as pas interrompu. Si les politiciens comprenaient quelque chose de la technologie, ça saurait. Non, c'est vrai. Ils comprennent surtout quelque chose au fait qu'il y a des pétitions qui sont parties, qu'il y a eu un vrai mouvement de la rue, et ça, ils l'ont compris. Donc, bravo à eux d'avoir su écouter. Ça, ouais. C'est vrai. Maintenant, il semblerait que ce qui sort par la porte rentre par la fenêtre, etc., etc. Il va falloir voir qu'est-ce que ça donne après.
Oui, c'est vrai qu'il y a déjà
des nouveaux accords.
Oui, il y a déjà d'autres accords qui sont en train d'être discutés, qui pourraient réintroduire certains éléments de d'ACTA et certains éléments de SOPA surtout. Mais bon, en même temps, là, c'est vrai que les députés ont bien compris la chose. Et moi, je suis un petit peu moins cynique. J'ai l'impression qu'ils ont compris vraiment de quoi il s'agissait, parce qu'on a gueulé, effectivement. Mais ils ont vraiment l'air d'être investis dans la question de la sauvegarde de la liberté d'expression. C'est un petit peu fort, mais oui, c'est quand même un petit peu à ça que ça touche. Et donc, c'est pas juste un vote politicien, je dirais. Il y a une certaine conviction derrière. Et j'ai d'autant plus envie de le croire que moi, j'ai longtemps dit, pendant tout ce processus, j'ai longtemps dit aux auditeurs qui nous écoutent qu'il fallait être impliqué politiquement et d'appeler ces députés pour essayer de leur expliquer le problème et dire pourquoi on ne voulait pas d'ACTA et que c'était important de le faire. Bon, bien sûr... La répartition des votes pour ACTA semblerait montrer que les députés français, ou en tout cas d'origine française, ont été moins convaincus que les autres. Donc, je ne sais pas si c'est notre action à nous, auditeurs du Rendez-vous Tech, qui a été efficace. Mais bon, en tout cas, l'action du public, je pense, a porté ses fruits, c'est sûr, avec un petit peu de conviction, à mon avis, du côté des
J'étais en train de me poser une question en me disant, est-ce que c'est pas aussi le parti pirate européen qui est quand même à représenter? Alors je me disais, mais combien de représentants ils ont au Parlement européen? Et si je crois, peut-être je me suis trompé sur l'information, j'étais en train de regarder sur Wikipédia, qui se trompe jamais, est-ce qu'ils ont seulement 2 députés ou est-ce qu'ils en ont un peu plus? Je suis pas sûr, mais peut-être le fait qu'ils soient aussi au Parlement, ça aide un peu nos très chers hommes politiques de comprendre quelque chose.
Oui, ça c'est une vision à mon avis un petit peu optimiste, parce que deux députés qui doivent être regardés comme des sortes de parias étranges dont on ne comprend pas grand-chose. Mais bon, oui. C'est sûr que c'est... Bon, ce qui est clair, c'est que traité était parti pour être plutôt accueilli favorablement, on pense, par ce public, et qu'il y a eu un retournement exemplaire. Donc, bon, on ne peut que l'applaudir. Comme tu le disais, Benoît, par contre, il y a certaines choses qui peuvent toujours être inquiétantes. On parle notamment d'une loi qui est proposée par Lamar Smith aux États-Unis. C'est la personne qui était derrière la loi SOPA. C'est encore un autre problème, la loi SOPA. J'étais pas aussi contre que avec la loi ACTA, c'était un petit peu plus compliqué, mais il propose par exemple un truc qui a fait parler de lui, c'est le fait d'envoyer des IP attachés, donc des attachés à la question de la propriété intellectuelle, dans les ambassades américaines à travers le monde pour défendre les intérêts économiques américains au cœur des pays en question, donc dans les ambassades, qu'ils aient une représentation diplomatique. Donc c'est quelque chose qui fait grincer un petit peu des dents. On va voir si ça va être implémenté. C'est juste à l'état d'élaboration en ce moment aux États-Unis, donc on n'y est pas encore. Mais ça veut vraiment dire que c'est pas parce que ACTA a été battu qu'on peut totalement se reposer. Bon, il faut quand même apprécier cette victoire. C'est un petit peu le ton que j'entendais dans tous les blogs qui parlaient de cette nouvelle.
Ouais. Il y a une chose que j'aimerais dire là-dessus, et c'est vrai, je te rejoins entièrement sur le fait qu'il faut célébrer. Le seul petit problème que je vois, c'est que c'est une victoire du non. Et quand le non gagne, en fait, on reste sur place. La chose, évidemment, moi qui m'intéresse, c'est de dire comment est-ce qu'on va quand même gérer ces problèmes. Parce qu'il y a des problèmes de contrefaçon. On peut pas simplement dire qu'ils n'existent pas. Si un jour je viens, je prends le rendez-vous tech, je vire les pubs de NoWatch et je mets les miennes, ça va pas. C'est quelque chose, on peut pas faire ça pour que des gens soient motivés à créer. Donc on doit quand même essayer de trouver des solutions. La solution d'envoyer des gens dans les pays, pourquoi pas, c'est peut-être aussi histoire de comprendre mieux les pays, espérons qu'ils le voient dans ce sens-là.
Mais peut-être.
Ouais, je crois que tu as raison. Mais ce qui m'intéressera, c'est les propositions qui suivront, de voir qu'est-ce qu'ils ont compris plus tard. Alors, je ne sais pas si tu as déjà, toi, des pistes, parce que c'est vrai que moi, là, j'ai un petit peu regardé et je n'ai pas vu des choses qui pourraient protéger les créateurs de contenu, par exemple.
Oui. Je pense que oui, enfin c'est un grand débat, mais je sais pas si ces personnes-là sont celles qui pourront répondre à la question. Dans la chatroom, on nous mentionne le fait, c'est F Croiseau qui nous mentionne le fait qu'il aime le Parti Pirate, mais il a pas été très convaincant pendant l'émission sur la musique. Enfin, c'était un petit peu plus large que la musique, mais sur les artistes du Rendez-vous Tech. Vous pouvez remonter à l'épisode, je sais même plus lequel c'était. 90, 89 peut-être. Oui, c'est ça. C'était l'épisode 89 où j'avais invité des artistes de mes connaissances et des représentants locaux français du Parti Pirate. Bon, eux n'avaient pas, je pense qu'ils n'étaient pas tout à fait rompus à la question du débat. Et moi-même, j'ai été surpris de la position qu'ont pris mes camarades artistes sur toutes ces questions. Ils défendaient vraiment leur bout de gras, ce qui est compréhensible. Alors qu'on a parfois l'impression que nous, on est tous, c'est la fête, c'est la joie, on est tous un petit peu pour le Parti Pirate. Et donc, les vrais artistes, eux, ils nous comprennent. Et là, c'était des vrais artistes qui mangent de leur art. Et ils n'étaient pas tout à fait en accord avec tout. Donc, les gens du Parti Pirate ont été un petit peu décontenancés. Mais au-delà de ça, ce qu'on a vraiment compris, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple du tout. D'un côté comme de l'autre, on est un petit peu face à ce problème et on ne sait pas comment le résoudre. Donc, les questions continueront à arriver et on espère que les réponses se matérialiseront dans les années à venir. Une autre chose qui a posé pas mal de questions dans le monde du tech ces dernières semaines, c'était la sorte de révélation sur les méthodes de management assez désastreuses de Microsoft suite à une présentation de Surface dont on a parlé déjà dans l'émission et dans d'autres émissions qui était assez enthousiaste. On a eu des informations sur la manière dont Microsoft gère ses talents. Et une méthode en particulier qui s'appelle le forced ranking ou le stack ranking, dont on a appris ensuite qu'elle était utilisée aussi chez d'autres sociétés comme Dell par exemple, est venue sous le feu des projecteurs en, comme étant une sorte de destructeur de motivation et de créativité, un destructeur de talent. Et Microsoft a été extrêmement critiqué pour son utilisation de cette méthode. Alors, pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, c'est assez simple. C'est une méthode de management qui veut que vous forciez vos groupes dont vous êtes responsable dans des catégories de performance. Il y a 10 ou 20% de personnes qui sont très performantes, 80 ou 70% de personnes qui sont moyennes et 10% de personnes qui sont pas bonnes. Et donc, ces 10%, a priori, l'utilisation de cette méthode, c'est le remplacement de ces personnes qui sont pas bonnes, parce qu'elles sont estimées comme étant des personnes qui ne conviennent pas à la société. Le problème de cette méthode, a priori, on se dit, bon, on classe qui sont les meilleurs, qui sont les moins bons. Le problème, c'est que c'est extrêmement rigide comme méthode. Et donc, quelles que soient vos performances, vous savez qu'il va y avoir une ou deux personnes qui vont être jugées comme très performantes et 8 personnes qui vont être jugées comme complètement moyennes. Et ça ne n'encourage pas du tout à la performance et à à l'innovation, à l'ingéniosité, parce que on cherche juste les chiffres d'une part, et puis on sait que quoi qu'on fasse, il y en a un ou deux qui vont passer comme étant très bons, et tout le reste va être un petit peu discrédité. Donc effectivement, c'est un petit peu frustrant, on peut l'imaginer.
Moi, en fait, j'avais déjà entendu parler de cette méthode parce que en Suisse, on a un gros à Genève, on a un des centres mondiaux de Procter & Gamble. Hein. Procter & Gamble, donc c'est le gros.
Qui est l'une des sociétés qui utilise.
Exactement, qui fait beaucoup de choses dans la nourriture, qui est Ariel, enfin toutes ces choses assez.
Dans la nourriture, Ariel, effectivement, ouais. Oui. Je mange souvent des bacs quand j'ai plus de pâtes.
Il faut pas les manger. Voilà. Alors je pensais aux chips, je me souviens pas. En tout cas, je suis pas vraiment forcément fan. Et donc, on a pas mal en Suisse de personnes. Ils ont un énorme centre, hein, plusieurs milliers de personnes et de marketing, et donc on a pas mal de gens qui travaillent là-bas. Donc moi j'en connais personnellement, et c'est vrai que ça c'est venu ils ont expliqué comment ça se faisait, c'est-à-dire on se fait noter par ses supérieurs, on se fait noter par les gens autour de soi, donc tout l'écosystème, et voilà, celui qui a la moins bonne note ben
à la fin il mange du Ariel.
Oui, mange du Ariel pour le petit déjeuner. J'entendais quelqu'un qui disait une chose juste, c'était John C. Dvorak là dans This Week in Tech, que je pense que tu participes de temps en temps, hein, Patrick. Il disait que ça vient de chez Jack Welch. Jack Welch était ce CEO super connu de General Electric, je crois, de GE, qui a mis en avant cette méthode en disant que c'était une bonne méthode pour faire fuir les gens pas compétents de sa boîte. Alors, c'est très américain, je trouve, c'est très systématique. Moi, ce que je pense, c'est que c'est un peu une vieille méthode de management, un peu militaire. Et je pense que dans le monde actuel qu'on vit avec la génération Y, qui est un peu plus libre, qui veut et qui a une aspiration un peu plus grande, je pense pas que ça fonctionne. Oui. Donc,
je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a aussi un autre point qui était important et que beaucoup de gens ont oublié de mentionner, c'est le fait que cette méthode est généralement assez efficace pour renouveler, rafraîchir un petit peu son vivier d'employés, et qu'il faut la faire sur 3, 4, 5 ans maximum, mais c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser sur le long terme. Et c'est là où Microsoft a vraiment, enfin, d'après tous les analystes, fait une erreur. Et il y a beaucoup de gens qui sont sortis en disant, moi, j'ai eu droit à ce truc, c'était horrible, c'était infernal, c'est démotivant, c'est tout ce que vous voulez. Là où Microsoft a un problème, c'est que visiblement, ils l'utiliseraient depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et c'est là que ça devient véritablement un souci.
Ouais, bon, peut-être qu'une chose que j'aimerais ajouter, hein, une boîte qui utilisait ça de manière connue, c'était Enron. Bon, pour donner le mauvais exemple.
Oui, c'est pas forcément.
Oui, mais à part ça, je dois dire, il y a un point positif à cette méthode quand même, qui est simplement lié à l'esprit humain. On n'aime pas, en général, dire du mal de ses collègues, parce que s'ils sont moyens, bon, voilà, ils sont moyens, ils font leur boulot, on va pas dire qu'ils sont mauvais. Mais malgré tout, dans une société, il faut qu'on arrive à différencier les gens, et le fait de devoir classer, ça force à prendre position sur la valeur, disons, de l'apport des collègues. Alors, même chez Google, on le faisait, hein. Si tu veux te faire promouvoir, tu dois être vu comme étant meilleur que quelqu'un qui est déjà au niveau au-dessus, par exemple. Et ça, c'est des signaux extrêmement forts pour le management, pour comprendre un petit peu comment les gens travaillent. Alors, à mon avis, il n'y a pas que du mal. Comme c'est mis en place après, c'est que si on vire les 10% en bas, il y a un problème. Mais pour le reste, c'est assez intelligent la méthode, je trouve.
D'accord. Bah, effectivement, hein, c'est un petit peu facile de critiquer uniquement la chose, mais il est clair qu'il faut la comprendre. Et puis l'implémentation avait l'air un petit peu extrême chez Microsoft, ou à l'air, puisque c'est encore le cas. Là où c'est important à signaler, c'est que on a... beaucoup, enfin en tout cas moi, je vais pas parler pour tout le monde, mais on a beaucoup applaudi les initiatives de Microsoft dans certains domaines, et notamment avec Windows 8, la Surface, Windows Phone 8. Moi, j'ai trouvé que c'était des choses assez courageuses. Et donc on a souvent dit Benoît est en train de m'envoyer sur Skype le fait que c'est Mike, fait que Marissa Mayer de Google est en train de devenir CEO de Yahoo. Elle a été nommée CEO de Yahoo, c'est ça?
Oui, exactement.
C'est
breaking news là en direct, mais on les a reçus des gentils auditeurs de No Watch. Enfin,
merci.
Du rendez-vous du tech, qui le disent, et puis je cliquais sur The Verge, et ça vient du New York Times. Donc,
alors effectivement, ça serait Pierre Lemaitel sur Twitter l'a mentionné. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a mentionné sur la chatroom. D'ailleurs, dont on n'a pas remercié Ustream, qui nous permet de faire le streaming en live et sans pub. Donc effectivement, Marissa Mayer, qui commençait à être un petit peu écartée chez Google, elle avait été très très haut placée pendant longtemps, et puis elle a été un petit peu mise à l'écart, et ça n'a pas été dit comme ça, mais elle était moins importante, on va dire, depuis quelques mois. Et puis là, donc, elle partirait chez Yahoo. Je comprends qu'elle soit pas contente d'être au premier plan, mais Yahoo, c'est un petit peu, c'est plus la même boîte, hein.
On a là un ex-Googler qui s'appelle Ben. Donc Ben, en ex-Googler qui a été bien motivé par Google pendant 3 à 4 ans, tu penses quoi de ça?
Écoute, c'est vrai ce que disait Patrick, hein. Elle a définitivement, de manière sûre, perdu de l'influence depuis, en tout cas, que Larry Page est CEO, hein. Il a resserré l'équipe et Marissa Mayer n'en faisait pas partie. Après, c'est quelqu'un qui est extrêmement doué, qui a un côté peut-être un peu scolaire comme ça, un côté très cadré, hein. Elle gérait par exemple de manière assez connue la première page de Google en faisant attention que les couleurs soient bonnes et tout ça. Mais des trucs comme ça un peu cadrés. Peut-être qu'elle lui ira bien chez Yahoo. Moi, je pense que je suis comme vous tous un petit peu surpris, mais elle me semble un bon choix. C'est pas la personne la plus créative de Google, cependant, à mon avis.
D'accord. Bon,
alors
écoute,
moi, je trouve que c'est un excellent, excellent choix. Je trouve que, franchement, tout le monde dit « Ah, comment sauver Yahoo, comment ci, comment ça ?» Puis c'est vrai qu'elle semble être une personne, comme on dit, ils disent toujours un « product person », donc elle semble savoir comment le faire. Et aussi, elle est extrêmement respectée de la Silicon Valley et surtout des journalistes. Des journalistes qui n'arrêtent pas de cracher sur Yahoo à tout va, et puis de les critiquer à tout va, alors que finalement, ils ont quand même un des sites les plus connus au monde et des sites de news les plus regardés au monde. Donc, malgré tout ça, je trouve qu'ils ont pas assez des fois de crédit pour ce qu'ils font, Yahoo. Et je pense qu'une personne comme elle, qui non seulement a la crédibilité de Google et puis du Google Search derrière elle, qui a montré qu'elle pouvait, qui est une femme, qui est respectée, je pense que ça peut aussi amener de la fierté aux employés de Google, de Yahoo, d'avoir une personne comme ça. Donc je trouve que vraiment un bon move. Elle doit gagner beaucoup d'argent, à mon avis.
C'est sûr, c'est sûr. Et c'est vrai qu'on a tendance à être un petit peu discrédité Yahoo, parce que bon, c'est plus tellement à la mode dans les milieux tech, mais c'est une propriété qui a une valeur absolument énorme. C'est un site qui est extrêmement visité, et c'est tout à fait vrai ce que tu dis aussi, Mike. Il y a eu jusqu'à maintenant, enfin ces dernières années, des gens qui étaient mis à la tête de Yahoo, qui étaient des gens qui venaient du monde du business, un petit peu gris, un petit peu austère. Et là, mettre quelqu'un qui vient vraiment du monde de la tech, qui est un ingénieur, qui a fait ses classes chez Google, peut-être que c'est ce dont Yahoo a besoin. C'est possible. Donc bon, j'étais prêt à me moquer de la chose ou à être en tout cas intrigué. Vous m'avez convaincu que ça peut être intéressant.
Non, très, très bon choix. Alors Yahoo, je sais pas comment ils ont réussi à la motiver, parce qu'évidemment c'est pas quelqu'un qui va prendre des risques non plus de se planter, donc ils doivent avoir d'autres trois choses. Juste pour dire, AOL est aussi avec un ancien de Google maintenant. Donc si on pense que AOL et Yahoo sont les plus gros consommateurs de pub, pensez bien qu'il y a encore Microsoft qui a des liens avec Yahoo pour le moteur de recherche, pour les pubs. Donc on est dans une situation aussi extrêmement intéressante à ce niveau-là, parce qu'à mon avis, ils n'auraient jamais pris Marissa Mayer s'ils ne sont pas en train de se demander si le deal avec Bing et Microsoft était une bonne idée. Ça, c'est mon opinion.
Oui,
à voir.
C'est vrai. Et merci aussi à Maxime Garrigue qui m'a signalé sur Twitter la news un petit peu avant. Bon, on était en train de parler de Microsoft et des pratiques de management. On va continuer avec Microsoft, mais avec un autre sujet. Office 15, alors c'est 15 ou 16, je sais plus. En tout cas, il s'appelle, c'est la version 2013 et c'est Office 365, le nom officiel, qui a été annoncé. Moi, j'ai suivi l'annonce un petit peu. Il n'y a pas, comment dire, les détails viendront hein, dans les jours à venir avec les premiers tests, etc. La version de test d'évaluation et la preview est déjà disponible sur office.com/preview. Donc vous pouvez aller le télécharger vous-même. Je ne sais pas quand il sortira. Ça sera a priori en même temps que Windows 8 ou à peu près en même temps. Donc autour du mois d'octobre. Et c'est effectivement le compagnon de Windows 8. Il est entièrement revu, réimaginé pour fonctionner. Disons que c'est possiblement la plus grosse modification de Office depuis un bon moment. Il se focalise sur différentes choses. Le touch, bien sûr, pour aller avec Windows 8. Le cloud, une intégration au cloud et à SkyDrive extrêmement importante. Il y a une intégration de Skype et des possibilités avec Yammer, qui est la sorte de Facebook pour entreprises, qui ont été évoquées. On a notamment vu certaines choses sur SharePoint. J'en parle de temps en temps ici, c'est l'outil de gestion en entreprise des utilisateurs de Microsoft. Donc SharePoint ressemble avec cette version un petit peu à Facebook. C'est une transformation assez impressionnante au niveau esthétique. Et en parlant d'esthétique, il y a aussi cette charte graphique métro, donc assez plate, qui est appliquée à Office. Et bien sûr, plein de fonctionnalités un petit peu hallucinantes de Excel qui ont été montrées. Si vous êtes un utilisateur d'Excel, je pense que vous serez impressionné par ces nouvelles fonctionnalités qui sont présentées. On va pas rentrer dans les détails là parce que c'est un petit peu spécifique, mais il y a des choses pas mal. Dernière petite mention, c'est le support non pas du stylet, bien que ça soit un stylet, ils ont appelé ça le support de l'encre. C'est ce stylet donc très précis qui tient la pression, qui fait différents types de pression, un petit peu comme les tablettes Wacom de haute qualité, qui pour prendre des notes, effectivement, là, ça devient un petit peu les choses sérieuses. On peut utiliser un stylet pour prendre certaines notes. Je m'arrête là pour vous demander ce que vous avez pensé de cette présentation de Microsoft Office 2013.
Ben moi j'ai vu une petite vidéo avant de commencer l'émission, c'était une petite vidéo de TheVerge.com, à croire que je fais que aller là-bas.
Hein. Ah ben c'est un très bon site. Hein.
Oui, c'est pas mal.
Ils sont là depuis quelques mois seulement et ils ont réussi leur lancement. Oui,
et puis des anciens de, je me souviens plus quel autre site.
C'était GDGT, si je ne m'abuse.
Ou Engadget.
Ouais, ou Engadget, oui, pardon, bien sûr. GDGT, ouais. C'est Ryan Block et ouais. Peter Horace.
Mais ce que
c'était eux
bien...
chez Engadget aussi.
Oui, exactement. C'est une petite communauté.
Ouais.
je trouvais pas mal. Ils montraient comment utiliser justement le nouveau Office sur la tablette. Donc, ils
essayaient. Ouais.
Et franchement, ça semblait bien fonctionner. C'est vrai qu'ils montraient les fonctionnalités en disant, ben voilà, c'est pas extrêmement bien fait pour le touch. Il y a toujours les mêmes fonctions que si vous avez Windows, enfin Office 2000, 2002 ou 2000, je pense, ouais, on va dire 2005 ou 2010 plutôt. vous avez les mêmes icônes. Et c'est vrai que c'est assez dur à toucher avec les mains. Mais en tout cas, l'intégration est bien faite. Et elle semblait pas mal. Moi, je trouve que franchement, ce qui semblait intéressant, c'est vraiment cette intégration que je trouve qui manque en entreprise, cette intégration de Skype et des outils de collaboration pour les documents. Parce que ça, je pense qu'en entreprise, à part chez les geeks et chez les petites startups qui utilisent tous Google et dans les grandes et Gmail ou Google Docs, ce que les grandes boîtes ne font pas, cette intégration, elle n'est pas encore là. Quand on modifie un document, qu'on puisse collaborer en ligne, et donc ça, je pense que ça va vraiment aider les gens à plus collaborer. J'espère que l'intégration Skype est super bien faite. Et franchement, maintenant quand je vois SkyDrive, hein, qui est un peu le
cloud de Microsoft,
le cloud, est-ce que les entreprises vont vouloir utiliser SkyDrive à l'extérieur, ou est-ce qu'ils vont eux-mêmes mettre sur leur serveur SkyDrive? Ça, c'est un point d'interrogation que j'ai. En tout cas,
j'imagine qu'il y aura des intégrations internes à l'entreprise. Ils sont très très conscients des besoins de leurs clients professionnels, et il est probable qu'il soit possible de l'intégrer à l'entreprise.
En tout cas, moi qui suis un utilisateur de Google Documents pour tout ce que je fais en dehors du travail, franchement, ça arrive quand même pas à la cheville d'Office. Donc, je pense que c'est quand même un super bon produit. C'est une cash machine énorme. Et quand on voit le nombre de produits, désolé pour tous les fanboy Mac, mais regardez, pour tous les fanboy Mac, le seul logiciel qui est mieux que n'importe quel autre sur Mac, c'est quand même Microsoft Office. Et il n'y a personne qui a réussi à copier.
C'est clair, Mike. Mais d'ailleurs, moi, je pense que des gens avec qui je parle, alors, je n'utilise plus de Windows depuis 2008. Alors, je ne suis pas le meilleur pour en parler. Ouais. Mais quand je vais, comme tout le monde, à Noël, etc., et puis que les gens me posent des questions, ils ne me parlent pas du système d'exploitation. Ils s'en foutent que ce soit XP, 7, etc. Ce qui les intéresse, c'est toujours Office. Est-ce que Office va marcher là-dessus? Et ça, quand même, à mon avis, on ne doit pas l'oublier, effectivement. Donc tout ça, l'intégration de Skype, moi, ça me donne vraiment envie de savoir. Il va falloir que je trouve quelqu'un avec un PC pour pouvoir tester tout ça.
Ouais.
Pardon, vas-y. Utilisé sur Mac, sur Mac, hein, Ben.
Bah, 2013, je suis pas sûr qu'il sorte tout de suite sur Mac, hein, mais
ils vont quand même se garder quelque chose.
C'est possible. Mais effectivement, avec l'intégration de SkyDrive qui est très très importante dans Windows 8, la possibilité d'utiliser Office, c'est le seul logiciel Windows Desktop classique qui sera utilisable sur les Windows 8 RT, donc les Windows 8 pour tablettes, qui n'auront pas a priori de fonctionnalités desktop classiques. La seule application classique que vous pourrez utiliser sur ces tablettes, ça sera Office. Donc cette intégration qui le rend assez omniprésent, hein, il est partout. On entend aussi que une version iPad d'Office devrait être annoncée devrait arriver autour de novembre. C'est les rumeurs, mais elle commence à être persistante. Et comme tu le disais, Benoît, Office, c'est vraiment un des deux piliers de Microsoft. C'est un besoin énorme, parce que je suis d'accord que bon, Pages, comment il s'appelle, le Pages, Keynote et Numbers, voilà, sont intéressants sur Apple. Google Docs, moi je m'en sers absolument tout le temps, mais c'est pas forcément possible de faire certaines choses qu'on voudrait faire avec d'autres documents. Bon, je pense qu'Office garde sa place, et là, ce qu'ils ont fait avec Office 2013, c'est juste que ça, c'est en accord avec Windows 8, donc c'est pas complètement révolutionnaire. Hein, y a pas de choses qu'on puisse montrer pour dire oh mon Dieu, ça c'est incroyable, c'est merveilleux, mais c'est quand même une implémentation intéressante qui a l'air réussie. Je ne sais pas à quel point ça fonctionnera avec le touch, mais le fait qu'il soit disponible et présent sur tous ces produits Microsoft et sur d'autres aussi vont en faire qu'à mon avis, ils vont garder leur couronne de suite de productivité la plus utilisée. Je vais faire juste un commentaire sur la remarque de Gloomf qui dit... qui dit Open Office et Libre Office sont des insultes à l'ergonomie, même s'ils sont parfaitement fonctionnels dans la chatroom. C'est un petit peu mon expérience aussi. Bon, des insultes à l'ergonomie, c'est un petit peu violent. Mais j'ai essayé d'utiliser ces deux solutions. Bon, c'est un petit peu la même, mais peu importe. Donc Libre Office ou Open Office. On a un petit peu l'impression de se retrouver sous Office 97, quoi. C'est pas suffisamment convaincant pour attirer les gens. Pour faire certaines choses simples, c'est un petit peu comme Google Docs. C'est tout à fait acceptable pour faire certaines choses simples. Je suis pas convaincu que de l'intérêt d'utiliser ces suites-là plutôt Google Docs, parce que Google Docs a d'autres avantages, comme le fait d'être en ligne notamment. Mais bon, oui, bref, Open et LibreOffice, c'est pas ma tasse de thé.
Je viens de remarquer quelque chose parce que je regardais sur Ustream depuis le site de Ustream et j'ai pas les mêmes commentaires que dans le nowatch.net/live. Je fais le lien pourquoi je voyais jamais ce dont tu parlais en termes de commentaires. Ah. Rigolo ça. Bon, voilà.
D'accord. C'est vrai que peut-être qu'avec la présentation vidéo de Microsoft, Ustream a eu des petits soucis de serveur. C'est possible. Bon, donc on continue tout de même avec une autre information qui nous vient d'Europe, qui est un petit peu compliquée à comprendre et à expliquer, donc on va y passer 2 minutes. La décision de justice de la Cour européenne, de la Cour suprême européenne, qui parlait de la possibilité pour un utilisateur de revendre une licence d'utilisation d'un logiciel Oracle, un logiciel dématérialisé. C'est-à-dire que si un utilisateur achète un logiciel dématérialisé de chez Oracle, il l'a utilisé et il voudrait pouvoir le revendre comme un logiciel qu'il aurait pu acheter dans un magasin. Et évidemment, ça pose toute une série de questions compliquées pour les DRM. Donc, la Cour de justice a dit que cet utilisateur devrait avoir le droit de revendre sa licence comme un produit usagé, n'importe quel produit usagé. Et donc, la décision retourne dans la cour locale, la cour de justice locale qui avait posé la question à la Cour suprême et qui va donc devoir appliquer cette réponse au jugement qu'elle était en train de faire dans ce cas précis. Une petite explication tout de même pour comprendre exactement à quoi répondait la Cour de justice, c'était la question de savoir si... une copie, COPY en anglais, est un objet juridique bien précis en termes légaux et c'est ça donne des droits et des devoirs spécifiques. Et dans le monde physique, une copie d'un objet, c'est effectivement une chose qu'on peut qui appartient au client qui l'achète et qui a des droits sur cet objet. Et quand le monde du numérique s'est développé, il y a eu une question qui s'est posée qui était: est-ce que la copie numérique est une copie au sens juridique du terme? Alors, bien sûr, les sociétés ont absolument voulu assimiler les copies numériques aux copies physiques parce que ça leur donnait certains droits et certaines possibilités juridiques qui étaient à leur avantage. Et maintenant, ils se retrouvent un petit peu, c'est un petit peu tel épris qu'ils croyaient prendre, parce que si jamais on considère que c'est une copie comparable à la copie physique, eh bien, dans ce cas, les mêmes droits des employés s'appliquent des employés, qu'est-ce que je raconte, des clients, des gens qui achètent ces objets s'appliquent aussi, c'est-à-dire le droit de revendre la chose, même si on peut en discuter, c'est un petit peu plus étrange de revendre un objet dématérialisé. Mon explication juridique, ne la prenez pas au pied de la lettre, hein, c'est ce que j'ai vaguement compris avec les explications que j'ai puisées à droite à gauche. Il est très possible que j'ai fait des erreurs et je vous encourage à me le signaler si c'est le cas. Mais bon, les conséquences de toutes ces choses-là sont intéressantes, parce que ça peut s'appliquer à d'autres domaines, hein. On pourrait imaginer que ça puisse s'appliquer à d'autres types de logiciels, des produits culturels comme de la musique ou de la vidéo. Mais à ce moment, ça devient impossible à gérer, parce que comment s'assurer que quelqu'un qui a acheté un MP3 sur iTunes, par exemple, ou un fichier musical sur iTunes, qui n'a plus de DRM aujourd'hui, aille le revendre et qu'il l'ait effacé de son ordinateur. C'est un petit peu la théorie que voudrait voir appliquer la Cour de justice. Se dire, il l'a vendu à quelqu'un d'autre, il a envoyé le fichier, mais il l'a effacé de son ordinateur. Bon, c'est un petit peu facile aussi. Moi, ma conclusion, c'est que c'est un jugement intéressant. Il va falloir voir ce que ça donne ensuite. J'ai tout de même une petite... une petite préoccupation à ce niveau-là, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui sont prêts à dire ah mais vous nous emmerdez avec vos DRM, nous on veut des trucs numériques et donc tout va bien, c'est le numérique et parce que c'est comme ça et le nouveau monde est fait comme ça. Et ensuite quand on dit ah bah oui mais dans le nouveau monde c'est numérique donc on n'a pas vraiment de système pour revendre la licence, ils disent ah bah non, dans mon système d'avant quand c'était en physique je pouvais revendre mon truc donc je veux le revendre aussi. Donc on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, les systèmes sont différents, la gestion des trucs sont différents. Je sais pas dans quelle mesure on peut absolument exiger de pouvoir revendre tout ce qu'on a acheté en numérique. Bon, mais bon, pardon.
Écoute, oui, il y a une chose peut-être, c'est que la solution, c'est des plateformes comme Steam, où chaque fois que tu vas utiliser ton programme, alors tu dois être connecté, mais tu vas aller pinguer un serveur. Ou mieux encore, le programme sera sur un serveur. Donc là, je pourrais dire, je vais renoncer à ma licence que j'ai achetée, je la revends à quelqu'un pour un prix que je choisis, et puis c'est lui maintenant qui peut aller pinguer serveur pour avoir l'autorisation. Je pense qu'on
va
aller vers quelque chose comme ça. Ouais.
Le problème, c'est que, en l'occurrence, ça implique des DRM assez spécifiques et assez importantes. Et si on peut l'imaginer pour un système comme Steam, il est difficilement imaginable pour des systèmes comme la musique ou les vidéos. Enfin, bon, les vidéos, ça existe encore, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est, en tout cas, dans les domaines de la culture, aussi peu de DRM que possible, parce que quand j'ai téléchargé un morceau de musique, je veux pouvoir le mettre sur n'importe quel ordinateur, n'importe quelle machine. Donc, Si c'est comme ça, si on accepte cette donnée, du coup, ça devient très compliqué de s'assurer qu'il a supprimé le machin qu'il a voulu revendre, l'utilisateur.
Moi, franchement, j'ai de la peine à comprendre ce jugement, j'avoue. Pour moi, ça semble avoir été créé par des juges et des avocats qui comprenaient pas grand-chose. Parce que finalement, depuis maintenant, quoi, 5-6 ans, le logiciel lui-même, donc le CD que le logiciel a perdu son sens, puisque on peut télécharger souvent les logiciels, et ce qui fait foi, c'est le login. Pour les jeux, ça fonctionne comme ça, pour plein de logiciels.
Mais alors c'est là que la question de la définition juridique de la copie devient importante, parce qu'on se demande si jamais c'est effectivement une copie, comme visiblement l'ont voulu certains développeurs, il faut que les droits et les devoirs s'appliquent, mais donc ça va dans les deux sens. Et donc dans ce cas-là, si c'est effectivement une copie comparable à une copie physique, c'est à ça que répondait la Cour de justice, tu vois, c'était simplement une question précise comme c'est souvent.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Dans le cas dans ces jugements et qui ensuite est un petit peu sorti de son contexte quand on en parle dans la presse, donc on comprend plus de quoi il s'agit. Mais là, c'était simplement, si c'est une copie, est-ce qu'on a le droit de le revendre? Et puis, je pense qu'il y avait aussi un autre facteur à prendre en compte. Je sais pas de quel logiciel il s'agissait exactement, mais les logiciels Oracle sont généralement des logiciels qui coûtent assez cher. Oui. Donc, si on parle de plusieurs centaines d'euros, Là, on se dit qu'effectivement, ça la fout un petit peu plus mal de se dire c'est un truc que je ne peux dont je ne peux plus rien faire après. C'est pas la même chose quand on achète quelque chose sur Steam ou à 40 ou 50 euros ou quelque chose sur iTunes à 2 ou 3 euros. Effectivement, bon, si notre petite application de calendrier qu'on a acheté sur iTunes pour notre iPhone à 1,59€, on peut pas la revendre à quelqu'un d'autre ensuite, c'est pas la fin du monde non plus. Si on parle d'une application Oracle à 800€, c'est un petit peu plus gênant.
Bon, moi, je pense que c'est un problème qui va se gérer par lui-même, finalement, parce qu'on est en train de partir de ce modèle-là. Partir de ce modèle de la copie physique du logiciel où tout devient dans le cloud, tout devient, en fait c'est le login qui fait foi. Donc finalement c'est peut-être un vieux problème à avoir qui s'appliquera plus trop dans le futur, je pense.
C'est très possible, oui. Le monde évolue. Et donc, il y a une autre encore, décidément, on est très européens aujourd'hui, entre les animateurs franco-suisses et les infos de la Cour européenne de justice et autres. Il y a une autre information qui nous laisse penser que l'Union européenne pourrait peut-être imposer une uniformisation des droits de licence au niveau de la musique, au niveau européen. C'est-à-dire que si jamais un morceau a une licence pour être vendu sur Amazon, le magasin de musique Amazon en France, eh bien il faudrait qu'il soit également achetable par les autres habitants de l'Union européenne, dans tous les pays de l'Union européenne. Ça pourrait faciliter la vie des gens qui essayent de fournir ces services. Donc, on parle de iTunes, Amazon, Google Play, ces choses-là, et faciliter la vie des utilisateurs qui se verraient plus facilement avoir accès à ces catalogues. Ça pourrait même faciliter la vie des gens qui accordent ces licences, des ayants droit, parce que j'ai quand même l'impression que c'est un bordel qui s'est développé un petit peu malgré eux, parce que chaque pays avait ses différentes ses différents organismes qui collectaient les droits. Peut-être que ça les forcerait à mettre de l'ordre dans tout ça. Si ça se passe, en tout cas, je pense que ça serait une bonne nouvelle. C'est une proposition pour le moment.
Ça serait une super bonne proposition. Moi, ce que je trouve, c'est si on fait le parallèle avec les biens physiques, en France, il est illégal pour, on va prendre un exemple d'une voiture, pour BMW Allemagne d'interdire les gens d'aller acheter leur voiture en Allemagne. C'est interdit et c'est interdit d'interdire l'importation grise. Et ça, c'est illégal.
Donc, c'est la libre circulation des biens.
Exactement. C'est le même concept, si on veut bien, à l'intérieur de l'Europe. Ou pourquoi est-ce qu'on pourrait interdire à une personne habitant au UK d'avoir des autres droits qu'une personne habitant en France ou en Allemagne? Donc, pour moi, ça fait énormément sens. Moi, ce que j'ai fait pour contourner la loi, je me suis créé un faux compte iTunes et je me suis fait ramener des gift cards américaines pour $50. Et je peux voir tous les films américains, je peux voir downloader toutes les applications américaines grâce à ça sur iTunes. Donc il y a des moyens de contourner la loi. Et bien sûr, Apple dit rien du tout.
Non, évidemment. Mais par contre, tu ne peux pas avoir les applications du store européen.
J'ai deux comptes. Et la problématique avec ça, c'est quand on fait un update de ces applications sur son iPhone, il faut rentrer ces deux logins. Mais sinon, il y a aucun problème.
D'accord. Bon, en tout cas, on espère que cette proposition de loi s'applique au final, parce qu'effectivement, ça simplifierait la vie de tout le monde, et en particulier dans ce domaine qui nous intéresse. Dernière grosse news dont on vous parle aujourd'hui, c'est une sorte de fin d'une histoire un petit peu émouvante. La revente, ou en tout cas la vente, de Digg.com, Digg.com, pour une somme qui est presque triste, je dirais, qu'il faut expliquer un petit peu. Donc, avant tout, qu'est-ce que Digg? Digg, c'est un petit peu le grand-père de tous les sites un petit peu sociaux que vous connaissez. Pas sociaux, mais de sites de bookmarking social que vous connaissez aujourd'hui. C'est un site qui a été créé par Kevin Rose, qui était un ancien de Tech TV, de G4 TV, pour les américanophiles, et aussi un pionnier du podcast avec Dignation, qui faisait avec son ami Alex Albrecht. On en a parlé plusieurs fois et j'en ai parlé souvent dans mes émissions. Et donc, il avait créé ce site après Tech TV, où le principe était que les utilisateurs pouvaient soumettre des liens avec des articles de news, et les autres utilisateurs pouvaient voter dessus en le diguant, donc en disant qu'ils aimaient bien ce lien ou cet article. Et donc, ça peuplait une page principale du site avec les articles qu'avaient préféré les utilisateurs. Alors, ça peut paraître un petit peu commun comme principe aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose de totalement nouveau, de jamais vu, et ça a été repris, bien sûr, par énormément de sites. Hein. Aujourd'hui, c'est même... Enfin, tous les principes du type like ou RT, même, on peut dire, le retweet, c'est presque un petit peu de là que c'est venu à l'origine. Donc, ça a été à l'origine de quelque chose d'incroyablement important. Kevin Rose est devenu une sorte de star de la Silicon Valley. Il a fait la une du Time Magazine avec ce sous-titre. C'est le gamin qui vaut 60 millions de dollars aujourd'hui. C'était une évaluation un petit peu ambitieuse de Digg. Et Tinus dans la chatroom nous dit Reddit a tué Digg, mais c'est pas tout à fait ça. Reddit est un autre site qui part du même principe, dont on vous parle régulièrement dans l'émission aussi. En fait, c'est pas tout à fait Reddit. Il y a eu un problème il y a 2 ans de ça avec la 4e version de Digg, la Digg V4, qui voulait en fait. On parlait de John C. Dvorak de Tweet. Il l'explique d'une manière un petit peu provocatrice, mais qui est pas totalement fausse. Le site a été redesigné pour en écoutant les utilisateurs, en quelque sorte. Et aussi pour être un petit peu plus social, un peu plus... pour résoudre certains problèmes qu'il y avait eu chez Digg. On va pas s'étaler. Le redesign a été une catastrophe. Ça a complètement vidé le site de ses power users, qui étaient, d'une part, les gens qui contrôlaient un petit peu le système, mais d'autre part, les gens qui le faisaient vivre aussi. Et donc, ça a été le début de la fin pour Digg. Il est resté relativement populaire, il faisait beaucoup d'utilisateurs uniques, mais c'est à ce moment que Reddit a récupéré ces gens-là et la communauté a un peu bougé sur Reddit, qui fonctionne d'une manière un petit peu moins contrôlée que n'était Digg V4. Bien sûr, Digg a essayé ensuite de corriger les problèmes qu'ils avaient eus. Ça a pris un moment parce qu'ils avaient d'autres problèmes techniques en passant d'un type de base de données à l'autre, dont je ne vais pas vous saouler avec cette histoire. Mais il était trop tard et le site a commencé une lente chute aux enfers jusqu'à aujourd'hui se faire racheter par une société qui s'appelle BetaWorks, qui est une petite société du web dynamique. Mais alors, les chiffres dont on entend parler, c'est un petit peu compliqué. BetaWorks a racheté Digg pour $500,000. Et là, c'est un chiffre qui fait pleurer parce que on se dit c'est une minuscule fraction de ce que aurait pu vouloir Digg. Et bien sûr, c'est aussi une fraction des $45 millions qui ont été investis par les investisseurs. Mais c'est un petit peu compliqué parce que LinkedIn a aussi racheté pour environ $4 millions une quinzaine de brevets de Digg, notamment le brevet appuyer sur un bouton pour approuver une histoire, pour voter sur une histoire. Et le Washington Post, et là j'ai pas très bien compris comment ça marchait, le Washington Post a racheté l'équipe Digg pour $12 millions. Alors, je sais pas très bien comment on peut racheter une équipe. Peut-être qu'il y avait une histoire de contrat. Ils ont dit simplement, on paye pour le talent, on ramène ces gens-là pour travailler pour nous et on donne à la société Digg ou aux investisseurs $12 millions pour qu'ils acceptent de les laisser partir sans poser de problème au niveau du contrat. Je sais pas très bien. En tout cas, au final, on est à peu près à $16 millions avec le site lui-même, le site, son trafic, son nom et ces choses-là qui ne valent que $500,000, c'est C'est triste. Moi, c'est bon, c'est un peu triste.
Moi, c'est bon, c'est un peu la fin de carrière déjà. Hein. On verra s'il va renaître à la Steve Jobs de Kevin Rose, qui ferme Oink, qui vend Revision 3. C'est ce qui advient de Digg.
Carrière, il est quand même investisseur chez Google maintenant. C'est pas non plus qu'il est parti sur une île déserte.
Ah, VC, c'est pas un boulot, c'est quand tu vas aller taper au golf et puis faire jouer ton réseau. Non, franchement, moi j'attends mieux de lui. Enfin, j'espère qu'il reviendra, parce que là, pour moi, il est au garage, il se ressource, mais j'espère qu'il reviendra. C'est vrai que c'est fou. Digg, ça aurait dû être de la taille de Facebook. Ils avaient les moyens de le faire. C'est là où ça montre que, voilà, des fois, même si on a tout pour soi, on peut se planter à n'importe quel moment. Et c'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur. Hein. Je sais que toi, Mike, tu étais beaucoup plus sur Digg que je l'étais, mais c'était un de tes réseaux de référence, non ?
Oui, j'étais en train de regarder parce que je me disais quand est-ce que Digg a été créé. Et Digg a été créé, je regardais sur Wikipédia, au 5 décembre 2004. Et je me suis logué pour voir quand j'ai été membre. Alors, j'ai été membre le 8 mai 2005.
Ah et oui, puis, quand même.
J'aimais bien Digg. Moi, j'étais un très bon utilisateur. Bien que je ne soumettais pas les histoires, ce que j'aimais, c'est parce que ça me donnait des news très rapidement de ce qui se passait. C'était une sorte de Twitter avant Twitter. C'était une sorte de nouvelle manière de lire les news. Alors moi, je trouvais vraiment aussi simple. Il faut savoir qu'ils avaient développé une API hyper développée avant tout le monde. Et c'était une nouvelle manière de créer des news. Donc cette API, elle pouvait être utilisée sur d'autres sites. On voyait des boutons Digg sur d'autres sites, comme tu le disais, Patrick. C'était les premiers à faire ça. Après, on a vu Facebook, Google+, Twitter qui l'ont fait. Mais c'était vraiment les premiers à faire ça. Et je trouvais qu'ils avaient une énorme communauté, un espèce de culte, un suivi de gens qui les adoraient. C'était plus que des t-shirts Digg, c'était vraiment une communauté énorme.
Et
ça a été un peu son défaut. Cette communauté avait tellement de puissance, tellement de pouvoir qu'elle dirigeait tout. Elle dirigeait aussi les Digg, elle dirigeait si on vote ou pas des news. Il y avait des utilisateurs extrêmement puissants. Mais je trouve que voilà, c'est la vie, c'est la même chose que plein d'autres sites qui ont été créés, MySpace en étant un. Moi, je trouve qu'ils ont quand même révolutionné le monde des news. Alors Reddit, c'est une copie pour moi, c'est une copie banale de Digg. Mais en même temps, c'est des news beaucoup plus. Il y a beaucoup moins de volonté de, si on veut, d'enlever des news,
de contrôler le contenu.
Voilà, contrôler le contenu, c'est vraiment laisser vraiment à l'utilisateur ça veut dire qu'il y a des bonnes news comme des moins bonnes. Mais moi, je trouve bravo à Digg. Je trouve qu'il y a un super article pour ceux que ça intéresse sur GigaHome, Omalek qui en a écrit un, qui explique pourquoi ça a changé le monde. Des news, et moi je dois dire bravo à Kevin Rose, bravo à Digg. Je vais m'acheter un t-shirt Digg.
Ah ben moi j'ai un t-shirt Digg Nation notamment.
Ah ça c'est cool, tu l'as reçu. t'as également été invité au podcast?
Non mais non, j'avais acheté un t-shirt Digg Nation et un hoodie Total Irrad Show à l'époque il y a quelques années quand j'étais aux États-Unis. Mais c'est vrai que on se rend pas bien compte aujourd'hui de ce qu'a représenté Digg à l'époque, mais c'était quelque chose de très très impressionnant. Donc petite larme qu'on écrase avec cette fin, ou peut-être que BetaWorks va le faire revivre d'une certaine manière, hein. C'est possible. On fait une petite pause sponsor pour vous parler de Squarespace. Et comme on vous le disait tout à l'heure, Squarespace, c'est un site qu'on est très très fiers d'accueillir sur le Rendez-vous Tech, parce que c'est un site et un service qui propose depuis très longtemps son patronage, son sponsoring au podcast américain, et qui veut aujourd'hui essayer d'évaluer un petit peu la faisabilité d'une implantation sur le marché français, et qui a donc proposé de faire passer le message par No Watch. et on est vraiment content d'avoir l'opportunité de vous en parler parce que c'est un produit d'une immense qualité. Alors Squarespace, c'est une offre tout en un de blogging. C'est-à-dire que si vous voulez concevoir un site ou un blog et que vous ne savez pas trop où aller, il y a certains services qui vous proposent certaines choses, mais généralement la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous. Et ben Squarespace vous offre pour une période d'essai gratuite et sans carte bleue de 15€ de tester leur service qui est entièrement gérable visuellement. C'est-à-dire que vous avez des modèles que vous pouvez utiliser pour concevoir votre site, mais vous pouvez les contrôler ensuite à la souris si vous voulez agrandir une colonne, raccourcir une colonne, ajouter un élément ici, le faire glisser quelque part. Donc vous pouvez vraiment concevoir votre site de manière extrêmement simple. Mais par contre, si vous êtes aussi un pro et que vous voulez plonger dans le HTML et le CSS, vous pouvez le faire aussi. Donc vous avez vraiment le meilleur des deux mondes. Comme je le disais, c'est une solution tout en un. Donc, on me dit dans la chatroom 15 jours, pas 15€. Si j'ai dit 15€, bien sûr, je me suis trompé. C'est 15 jours gratuits sans carte bleue, bien sûr. Je vais le répéter tout à l'heure. Donc, c'est une solution tout en un. C'est-à-dire que si vous signez ensuite pour un an, il vous donne le nom de domaine, l'hébergement, les analytics, etc. Et la possibilité de construire votre site en un temps record. C'est vraiment, vraiment intéressant si vous voulez créer un blog pour une raison ou une autre, mais aussi si vous avez un business, un restaurant, une boulangerie, ou j'en sais rien, mais un petit business, et que vous dites j'aimerais bien avoir un site sur le web, mais je sais pas comment installer des systèmes de CMS, de machin, c'est trop compliqué, et c'est effectivement un peu trop compliqué pour les gens normaux. Vous allez sur Squarespace, vous testez votre site, vous le créez en... sincèrement, vous créez un site en 2 minutes, vous rentrez votre nom, le nom de votre site, et vous avez l'adresse .squarespace.com pour le tester déjà en quelques instants, et ensuite vous pouvez le personnaliser à loisir, même pas besoin de mettre un numéro de carte bleue comme sur certains autres services. Je ne saurais trop vous le recommander. Squarespace, c'est comme un carré et de l'espace, hein, Squarespace. C'est un service d'une excellente qualité et je vous encourage vraiment à aller voir dessus comment ça se passe. Une petite note tout de même, passez par notre site de journal de bord de la Comic-Con, c'est nowatch.squarespace.com. Si ça vous intéresse d'essayer, il y a une bannière en haut sur laquelle vous pouvez cliquer qui va vous emmener au même endroit que si vous allez directement sur le site, mais ça nous aide beaucoup puisque ça leur montre que vous avez été amené à leur site par nous. Et donc, ça pourrait nous aider ensuite à sécuriser un contrat peut-être un petit peu plus long avec eux. Donc, nowatch.squarespace.com, et c'est vraiment un service d'une grande qualité.
Ouais, moi, je l'ai utilisé il y a encore peu, il y a 2 mois de cela, et c'est vrai, hein, la raison que tu as cité parmi d'autres, mais c'est que quand on est sur WordPress, par exemple, tous les sites se ressemblent, et on voit à l'œil comme ça en 2 secondes, alors que ce que j'aime bien sur Squarespace, c'est que vraiment, c'est vrai, tu peux en faire ce que tu veux, ça peut être le site que... tu as envie, donc tu as envie, pas le site avec le thème que tu as choisi. Et ça, c'est vraiment vraiment sympa. Et les 2 minutes, c'est vrai, c'est ça qui est hallucinant. C'est que tu dis, ah bon, allez, vas-y, 2 minutes. Mais c'est vraiment 2 minutes. Quoi. Non, c'est vrai. Je peux que, s'ils deviennent un sponsor de NoWatch, les deux parties pourront être fières.
Écoute, c'est très gentil. Et effectivement, comme tu le dis, c'est quelque chose qui est tout à fait sincère de notre part aussi. L'autre sponsor, c'est la boutique, le fan shop NoWatch que vous connaissez bien sûr, puisqu'on vous en parle régulièrement. Mais là, il y a quelque chose de nouveau, c'est l'arrivée des t-shirts sur le fan shop NoWatch. On vous en a parlé régulièrement du fan shop. En l'occurrence, il y avait jusqu'à il y a quelque temps seulement des badges, des badges, des écussons, des décalcomanies. Maintenant, il y a aussi les t-shirts, le fameux Kill Your TV Now, avec 3 petits points pour faire NoWatch, et la Hulkette, donc la fille qui crie, qui sont en flocage, donc super doux, c'est de la bonne qualité. Ils sont en plus pas très très chers, ils sont à 20€, ce qui est un prix tout à fait normal pour des t-shirts de cette qualité. Et en plus, ça nous aide beaucoup puisque vous le savez, nous faisons fabriquer les t-shirts nous-mêmes directement, donc ça nous nous file beaucoup plus de sous au final que les t-shirts de l'ancienne boutique. Donc en plus c'est le nouveau logo qui est magnifique, designé par Jérôme, et accessoirement les frais de port sont offerts à partir de 50 euros d'achat. Donc on vous encourage vraiment à aller sur nowatch.net et à cliquer sur le bouton boutique et aller au moins y jeter un coup d'œil. C'est bon.
Okay. Oui, est-ce que on pourra trouver des t-shirts de toutes les émissions, Niptech aussi?
Alors pour le moment, on est sur le fan shop, on est vraiment No Watch. Peut-être faire évoluer, voir comment ça fonctionne. Et puis on a aussi une autre boutique qui est l'ancienne boutique Spreadshirt qu'on pense éventuellement à reconvertir plus tard pour faire une sorte de do it yourself avec différents motifs. Mais bon, on n'y est pas encore. Pour le moment, on est vraiment sur ces deux modèles de t-shirts. Il faut savoir que à chaque fois qu'on fait un nouveau modèle, il faut les stocker quelque part parce que là, ils sont vraiment fabriqués. Et stocké dans les bureaux de No Watch qui sont l'appartement de Jérôme. Donc c'est vraiment une entreprise, comment dire, je vais pas dire familiale, mais presque quoi. Donc pour le moment, on voit ce que ça donne comme ça.
Et moi j'ai une question pour toi Patrick, est-ce que tu t'es déjà baladé dans la rue à Paris et t'es tombé comme ça par hasard sur quelqu'un qui portait le t-shirt No Watch dans le métro?
Non, ça m'est pas arrivé. Je suis déjà tombé sur des gens qui m'ont reconnu. Ça fait très bizarre. Ouais. Mais des gens qui portaient des t-shirts, bah j'en ai vu genre dans les IRL, à la Comic-Con, tout ça, mais dans la rue, non, je crois pas.
Bon, moi je crois que quand même ça doit te faire plaisir de voir qu'il y a des sponsors comme Squarespace qui commencent à sponsoriser les émissions. C'est quand même une grande reconnaissance. Si on voit des boîtes américaines qui commencent à sponsoriser des podcasts français, ça veut dire que tu as l'oreille des États-Unis. Tu arrives à nous expliquer comment t'as trouvé ce sponsor? Est-ce qu'ils sont venus vers toi? Est-ce que tu les as démarchés?
Bah écoute, c'est No Watch, hein. C'est le travail, l'une des nombreuses tâches des bureaux No Watch, c'est d'essayer un petit peu de tenter de faire vivre tous les podcasts. Et donc évidemment, Squarespace est l'une des possibilités qu'on regarde. Et les podcasts qui, les sponsors qui sponsorisent les podcasts américains sont des cibles privilégiées, évidemment. En plus, l'un des avantages qu'ils ont, c'est qu'ils comprennent un petit peu ces médias, contrairement aux sponsors français qui sont un petit peu longs à la détente parfois. C'est pas toujours le cas, mais parfois là c'est des gens qui viennent de ce monde là donc ils sont un petit peu plus au courant de ce qui se passe, et donc quand ils essayent de transposer leur business dans notre vieille Europe, ils vont forcément chercher les cibles qu'ils connaissent déjà dans leur pays. Donc c'est un petit peu comme ça que ça marche.
Ça c'est bien.
On enchaîne avec nos news un petit peu plus rapides, et on en a un certain nombre, je ne sais pas combien on va en faire, on va voir, mais la première, ce sont deux news que vous avez ajoutées, messieurs, dont je vais vous laisser en parler rapidement.
Oui, j'ai rajouté deux petites news que je trouvais intéressantes. Une que j'ai lue sur Mashable qui disait que le Nexus 7, donc la tablette de Google, est vraiment out of stock partout, vraiment difficile à trouver. Donc ça veut dire que ça fonctionnerait bien. Donc
bonne nouvelle.
Est-ce que c'est que Google avait fait très peu de stock et donc c'était difficile à les obtenir, ou est-ce que c'est parce que ça fonctionne bien? En tout cas, c'est juste pour dire que maintenant il y a une alternative à l'iPad. Moi, je l'ai encore personnellement pas testé. On avait discuté sur Niptech avec Léthargique Panda qui nous avait expliqué que c'était pas mal, que ça commençait à être aussi snappy que l'iPad. Ouais. Donc vraiment pas mal. Moi, je trouve que c'est une belle alternative. Je trouve que finalement, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on va voir l'iPad continuer à se développer, mais le Nexus et toutes les tablettes Android vont manger un peu le marché bas de gamme de 199 $, que je trouve pas mal. Et je dis longue vie à la concurrence, je me réjouis d'en tester un.
Alors écoute,
199
Mike,
pour les gens qui comprennent pas, c'est 199.
Ah, hein. Exactement.
J'explique aux Français, parce que c'est une langue étrange que vous parlez.
Il y a une preuve absolue que le Nexus 7, le Nexus 7 est vraiment bien. MG Siegler, qui est un des grands colonistes américains, qui est un Apple fanboy, mais qui fait passer tous les Apple fanboys juste pour des modérés, même des mous, il a dit qu'il adorait le Nexus 7 aujourd'hui dans TechCrunch. Et ça, pour que ça arrive, croyez-moi, ça veut dire qu'il doit être vraiment, vraiment bien. Donc moi, ça m'a donné envie aussi de le voir, parce que mon Kindle Fire, au même prix, c'est une brique. Et là, du coup, on peut se dire qu'il y a de l'espoir. Si quelqu'un a pu déjà l'essayer, peut-être... Est-ce qu'il est en France, déjà?
Non, il y a des gens qui l'ont eu des États-Unis, mais malheureusement, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de contenus qui sont associés avec le Google Play Store. Et a priori, il n'est pas encore là, pas tout de suite, quoi.
Bon, moche.
Mais bon. Oui, effectivement, MJ Sigler, pour qu'il dise du bien d'un produit Google, c'est que vraiment... l'autre news intéressante de chez Amazon.
Oui. Bon, moi, j'aime bien tout ce qui est le retail et tout ce qui est la vente en ligne. Et je pense que c'est encore un domaine qui va vraiment bouger, surtout en Europe. Je sais pas. Est-ce qu'en France, Amazon, c'est vraiment une grande puissance en France, hors les livres, hein?
Oui, je pense que de plus en plus, les gens commencent à utiliser Amazon. Il y en a d'autres, hein, mais Amazon est certainement pas, est certainement incontournable dans le domaine.
Parce que là, c'est une news assez intéressante, c'est qu'en fait, Amazon ne faisait pas payer, je parle d'Amazon aux États-Unis, ne faisait pas payer ce qu'ils appellent la sales tax, donc la taxe sur les ventes des États américains. Donc,
il y avait toute une histoire avec la présence sur le territoire, mais quand quelqu'un achetait du Kentucky et que les magasins, enfin les entrepôts Amazon étaient, je sais pas moi, dans le Maryland. Amazon disait, bah non, moi je suis pas dans le Kentucky, donc même si le type qui achète est dans le Kentucky, moi je paye pas la taxe.
Voilà. Alors que pour les autres sociétés, comme ils appellent de dur, comme les Walmart et tout ça, eux, ils doivent percevoir la taxe, ils ont une obligation légale de le faire et de le retribuer à l'État. Donc il y avait un peu ce combat-là, et finalement.
Ça a été un vrai bras de fer, ça a duré longtemps, oui.
Ça a duré pas mal longtemps et finalement Amazon a accepté en disant écoutez, on va commencer à faire payer la sales tax, mais ça montre leur manière de faire qui est assez incroyable. Et ils ont dit nous ce qu'on va faire, c'est que au lieu de dire bon voilà on va juste payer la sales tax, on va s'installer de plus en plus dans les grands hubs, donc dans les grands centres des villes, pour faire des centres de distribution et de livraison. C'est-à-dire, ils ont des grands centres de distribution, surtout en Arizona, je crois, mais ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est des centres où on peut aller chercher la marchandise directement, donc vers les grandes villes. Alors, ils sont en train de se développer, non seulement pour envoyer la marchandise, mais aussi...
Ah oui, moi, c'est pas ce que j'avais compris. On peut aller la chercher carrément, parce que je sais qu'ils veulent développer la livraison le jour même. Déjà qu'ils sont populaires, parce qu'on n'a pas envie d'aller s'emmerder à aller faire des courses et livrer chez nous le lendemain, c'est pratique. Là, la livraison le jour même, ça pousserait beaucoup de gens à acheter peut-être chez Amazon, effectivement.
Exactement. Et ce que j'en ai compris en lisant la news, c'est que d'à côté, bien sûr, s'ils ont le hub à côté de la ville, ils pourront faire la livraison le jour même. Et encore, la personne pourra passer la chercher. Je trouve que franchement, ils ont un modèle assez incroyable, Amazon, qu'on voit pas vraiment venir en Europe encore, mais on n'en parle jamais assez d'Amazon Prime, qui permet pour, je crois, cinquantaine de dollars ou 70 dollars d'avoir toutes les livraisons gratuites à l'année, ce qui veut dire qu'on commande quelque chose à 1 dollar ou 2 dollars, c'est gratuit. Et c'est vraiment un modèle qui est hallucinant parce qu'il casse un peu toutes les règles de ce qu'on voit aujourd'hui. Très très peu de marge, un volume énorme et des prix très très bas. Donc je me réjouis de les voir rentrer en Europe. En Europe, on a beaucoup de sites internet, mais ils n'ont pas cette force, ils n'ont pas cette...
Un truc qu'on comprend pas bien de l'Europe, c'est à quel point Amazon est omniprésent aux États-Unis. Imaginez si... on peut acheter n'importe quoi chez Amazon aux États-Unis, vraiment, vraiment n'importe quoi. Du papier toilette, il n'y a pas de problème, c'est sur Amazon. Donc, en France, on a différents types de vendeurs. Aux États-Unis, ils sont vraiment omniprésents. Je sais pas si la livraison le jour même sera vraiment possible chez Amazon en France, peut-être. Mais si c'est le cas, effectivement, ça serait quelque chose à considérer. Bon, on a aussi un autre problème logistique en France. On a beaucoup d'immeubles et on n'a pas forcément le gardien pour récupérer l'objet en question. Donc, si on est au boulot, c'est pas toujours la même chose, mais peut-être que ça serait gérable quand même. En tout cas, c'est à suivre.
Vous n'avez pas de gardien d'immeuble en France, dans tous les immeubles?
Pas dans tous, non.
Ah, alors ça, tu vois, en Suisse.
Forcément, vous avez un doorman, le type qui vous ouvre la porte de l'ascenseur, le type qui vous essuie les pieds pour pas faire de la poussière, mettre de la terre chez vous. Non, mais voilà. C'est la Suisse, forcément. une autre news dont je voudrais parler, toujours en parlant des grands de ce monde, la bataille des brevets entre Facebook et Yahoo serait en passe de se terminer. Ils enterrent l'âge de guerre, comme quoi vous vous souviendrez peut-être que on avait parlé du fait que Yahoo avait attaqué lâchement Facebook au moment où ils allaient entrer en bourse, et Facebook a dit bah écoutez les gars, vous êtes gentils mais on va pas se laisser faire, on va racheter des brevets et on va se défendre. Et ben là ils ont conclu un accord pour une licence croisée de tous leurs brevets, donc ça veut dire que la hache de guerre est effectivement enterrée. Ce qui est marrant, c'est que licence croisée, ça veut dire que du coup Facebook avait suffisamment de brevets pour faire peur à Yahoo. Peut-être qu'ils auraient pu attaquer Yahoo grâce aux brevets qu'ils avaient achetés. Donc bien joué de la part de Facebook, ça leur a coûté un petit peu d'argent, mais ils ont montré qu'ils se laissaient pas faire et la question des brevets est enterrée. Autre news, toujours à propos d'Amazon, il serait prêt à sortir un téléphone portable. Bon, je vais passer sur la news rapidement, mais...
Non, moi je trouve génial, hein. je trouve assez incroyable, parce que finalement, eux, c'est toujours le même modèle qu'ils ont. Le hardware, donc le téléphone, il va presque rien coûter. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que les personnes utilisent le téléphone pour acheter des produits sur Amazon. Donc c'est comme le Kindle qui coûte rien. Mais moi, je suis assez un fan de Kindle, hein. J'en ai encore un. Je lis que avec ça. Mmh. Franchement, ça m'a fait acheter énormément plus de livres qu'avant. Ouais. Et de dépenser plus d'argent. Et c'est pour ça que c'est assez problématique pour toutes les personnes qui font du hardware en ce moment, parce qu'elles se posent la question finalement, avec des gens comme Amazon qui sont prêts à l'offrir gratuitement parce qu'ils ont une autre idée derrière la tête, donc de faire acheter du contenu, comment est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à se faire de l'argent? Donc ça, c'est vraiment un modèle qui montre qu'Amazon va de tous les côtés, et franchement, bravo à eux.
C'est vrai que une chose dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, c'est le fait qu'Amazon est aussi très présent sur le domaine de la culture dématérialisée, que ce soit la musique ou la vidéo ou ce genre de choses. Ils ont même une sorte de game center qui vient d'être annoncé pour les tablettes et certainement pour leur nouveau téléphone. Donc tous les domaines que couvrent Google et Apple, ils sont en train de rentrer dedans petit à petit. Donc un téléphone serait logique, effectivement. En tout cas, aujourd'hui, rien n'a été annoncé encore. Une autre chose qui n'a pas été annoncée, c'est l'iPad qui est en rumeur partout, un iPad 8 pouces qui pourrait effectivement sortir à l'automne. Vous y croyez, vous ?
100%.
D'accord, 100% pour Benoît, Mike ?
Bah moi, j'ai entendu dire qu'il va sortir, mais je trouve ça triste. Je crois qu'il faut pas aller dans cette direction-là. Steve Jobs se retournerait dans sa tombe s'il voyait cette chose-là. Donc voilà.
Tu fais certainement référence à la remarque de Steve Jobs où il disait pendant un investor's call où il disait si on créait des iPads de 7 pouces, il faudrait fournir les limes à doigts avec parce que les doigts sont trop gros pour appuyer sur les éléments d'interface sur un iPad de 7 pouces.
C'est pour ça qu'il fera 8 pouces d'ailleurs.
Oui, exactement. Non, mais c'est sûr que, enfin, je te rassure, à mon avis, il se retourne pas vraiment dans sa tombe. C'est juste que il était très connu pour dire exactement le contraire de ce qu'ils étaient en train de faire. Notamment le fait que ils avaient dit qu'ils ne feraient, il y a longtemps, jamais d'iPod vidéo. L'année suivante, l'iPod vidéo sort. Donc je pense que et puis en plus il est gentil avec son histoire de un 7 pouces ça serait trop petit, mais enfin sur les iPhones qui font 3 pouces et demi, on arrive très bien à appuyer sur les éléments de l'interface, que je sache. Donc
c'est vrai. Mais j'entendais quelqu'un dire dans un podcast qui expliquait la raison pour laquelle ils allaient faire ça, et il paraît que la raison c'est des raisons de coût. Grâce à ça, ils peuvent faire un iPad moins cher, qui leur coûte bien moins cher à produire, et ils arrivent à être plus compétitifs dans le prix bas du marché.
Moi, ma question, c'est... Bien sûr. Bah oui, avec les nouvelles tablettes à $200,
il faut baisser. Mais pourquoi? Il n'y a pas besoin. Apple n'a pas besoin d'être dans les tablettes à $200. Je veux dire, Apple, c'est le haut niveau du marché. Louis Vuitton, ils peuvent pas vendre des sacs à 100 francs. Ça va pas. je veux dire, voilà, ils doivent les vendre à 2 000, 3 000 euros et plus.
Donc, je crois que l'époque où effectivement Apple était horriblement cher est un petit peu révolue. Là, ils sont un peu plus chers que les autres, 30% peut-être plus chers que les autres, mais ils sont quand même l'importance avant tout. C'est un petit peu le modèle iPod. Au début, l'iPod était vraiment un truc super cher. Quand les autres ont commencé à rattraper un petit peu, à offrir des produits intéressants à des prix moins élevés, ils ont bien été obligés de développer d'autres alternatives du type iPod Mini, iPod Nano, etc. Et ce sont ces produits vraiment démocratisés et accessibles à tout le monde qui sont devenus des succès vraiment à la grande échelle. À mon avis, un iPad Mini est tout à fait cohérent parce qu'il faut venir sur ces moins de $300, $250, peut-être même moins de $200. Parce que c'est là que va vraiment se jouer le marché des tablettes. Nous, on le dit souvent dans nos émissions sur NoWatch, les tablettes à $500, c'est super sympa, c'est un beau jouet à avoir, mais les tablettes ne deviendront un vrai outil de démocratisation de l'informatique que quand elles passeront quand elles deviendront un achat presque impulsif. À $200, tu peux dire, bon, bah, ok, je vais essayer, je vais aller voir $200, même si j'en ai pas trop besoin, je vais quand même voir ce que ça donne. À $600 ou $500, faut quand même le vouloir pour l'acheter.
Bon, je comprends ta réflexion de dire finalement, au fait, ils se battent pour avoir le plus d'utilisateurs possible pour vendre leurs applications par derrière et avoir un App Store qui tient la route parce que s'ils laissent...
C'est plus que ça. C'est pas que les App Store. C'est vraiment le marché des tablettes sur lequel l'informatique entière est en train de tabler. Et s'ils ne sont pas présents sur l'entrée de gamme, avec leur entrée de gamme à Apple, ils vont te le vendre 20 ou 30% plus cher en te disant que c'est la 8e merveille du monde. Et que le leur, il est vraiment, bon, c'est pas la même chose que les autres parce qu'il est vraiment mieux. Mais c'est quand même au niveau de l'entrée de gamme. S'ils n'y sont pas, c'est un problème pour le long terme sur le marché.
Je comprends la réflexion. Moi, je pense que ça vient aussi du fait que s'ils laissent ouvert la porte à ces tablettes un peu moins chères, finalement, Android va se développer, plus en plus de utilisateurs vont y aller, plus en plus de développeurs vont vouloir développer sur la plateforme, et pour eux, c'est un risque. Ça, je le comprends hein, comme tel.
Oui, mais... bien sûr, c'est aussi ça que ça implique, effectivement. Oui.
Mais pourvu qu'ils restent à créer de bons produits et que ça fonctionne bien. Et voilà, on est prêt à toujours payer 20 à 30% plus cher pour cette raison-là, parce que ça fonctionne et ça fonctionne mieux que les autres pour l'instant.
Oui, je sais pas. Oui, je dirais pas exactement les choses comme ça, mais je comprends la chose.
C'est notre propre MJ Sigler.
Bon, on va laisser les auditeurs se faire leur propre opinion sur la chose. On avait d'autres news qu'on pouvait traiter. Faire l'impasse sur ces news-là, à moins que vous n'ayez des choses dont vous voulez parler spécifiquement dans la liste. C'est plein de toutes petites choses qui sont pas forcément essentielles.
Moi, une news qui m'a quand même sauté aux yeux, c'est le fait, j'écoutais quand j'étais un peu adolescent Def Leppard, du bon hard rock, et ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont réenregistré leurs propres morceaux, donc c'est un groupe de hard rock américain des années 80-90, et ils ont réenregistré leurs propres morceaux pour les mettre sur iTunes, parce que pour réobtenir les droits. Alors, je pense que leur maison de disques avait les droits pour les anciens enregistrements, et eux, réenregistré pour pouvoir toucher l'argent sur iTunes. Donc, bravo.
Ouais, bravo. En même temps, Def Leppard, comme tu le disais, ils sont plus tout jeunes. Je sais pas s'ils auront la même patate. Est-ce qu'ils seront mieux ou moins bien, ces enregistrements nouveaux?
Parce que le batteur n'aura toujours pas son bras, j'imagine.
Pardon?
Ils avaient un batteur à un bras.
Oui, effectivement, un batteur manchot. Benoît, tu disais quelque chose?
Non, j'admirais aussi leur combativité, quoi.
Bon, écoutez, c'est sur cette news qui nous fait un petit peu sourire qu'on va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Avant ça, je vais quand même donner à mes camarades l'occasion de nous dire où on peut les retrouver sur Internet quand ils ne sont pas dans le rendez-vous tech.
Oui, alors absolument, c'est facile pour nous retrouver. Bon, bah, il suffit, il n'y a pas besoin d'aller très loin en fait, parce qu'il suffit de rester sur NoWatch, d'aller dans The Lab et de choisir NipTech. Là, vous trouvez les dernières émissions de NipTech. Et puis, pour nous faire un petit coucou, bien pour nous corriger, pour nous rendre un peu plus intelligents que ce qu'on est, Twitter, c'est clairement la façon la plus facile. Hein, Mike, pour moi, c'est @bcurdy, B-C-U-R-D-Y.
Et pour moi, side, S-Y-D-E.
Super, bah merci à tous les deux. Je vais rappeler aux auditeurs charmants qu'ils peuvent, s'ils veulent nous filer un coup de main, venir sur iTunes et sur le la page du Rendez-vous Tech et nous laisser un petit commentaire et une petite note du même coup. Ça fait toujours plaisir et ça aide d'autres auditeurs à nous découvrir quand ils se baladent dans ce magasin iTunes. Et je vais vous encourager aussi, puisque vous êtes sur nowatch.net pour aller regarder ce qui se fait sur NipTech, à aller aussi regarder ce qui se fait ailleurs sur nowatch.net. Il y a plein d'émissions de bonne qualité, comme par exemple au hasard Season 1 qui vous parle de toute l'actualité des séries télé. Et vous allez me dire, mais Season 1 est en pause estivale, Patrick. Oui, c'est vrai, Season 1 est en pause estivale, mais... C'est une bonne occasion de découvrir ce qui s'est passé cette année et peut-être en écoutant les épisodes précédents de découvrir des émissions de enfin des séries télé auxquelles vous n'aviez pas pensé et d'aller y jeter un coup d'œil. Donc pendant l'été, c'est un petit peu la pause des séries télé, là vous découvrirez peut-être quelque chose qui vous a échappé. Évidemment, il y a plein d'autres émissions de qualité aussi. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur nowatch.net. Eh ben, c'est tout. On va remercier la chatroom d'avoir été présente malgré les petits soucis de streaming. On me dit upload sur sur la chatroom. Merci Kézak, effectivement, pour les conseils d'app et de mobilité. Donc, on va remercier la chatroom. Je remercie Benoît et Mike d'avoir été présents aussi. Et je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines pour une nouvelle émission du Rendez-vous Tech, toujours estival. Merci à tous. Ciao, ciao.
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 Ah, c'est pas mal, vous avez fait ciao, ciao. Ça a presque fait un ciao, ciao normal niptechien. Bien joué.
On a l'habitude, là, de ciao. On est prêt, quoi.
Au taquet.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.